avec Jeff Fortin et Pascal Cévé.
L'émission d'Angers sur Boulevard 102, 13h36 minutes exactement. Merci d'être avec nous en tant qu'auditeur. À la météo, je le rappelle, c'est 2 degrés aujourd'hui avec des possibilités d'averse de neige, mais on ne parle pas d'accumulation. Donc, ça devrait être quelques petites brindilles si jamais il y a quelques flocons qui tombent. Mais pour le reste de la semaine, il n'y a pas de neige. C'est 3 degrés nuageux pour mardi, 2 degrés alternance de soleil et nuages pour mercredi et 0 degrés alternance de soleil et nuages. Pour jeudi, Pascal, avant la pause, on présentait notre prochaine invitée. C'est la docteure Marie-Claude Roy, pédiatre, présidente de l'Association des pédiatres du Québec, parce qu'il y a un cri d'alarme qui a été lancé par les pédiatres hier, manifestation devant les quatre principaux hôpitaux pour enfants au Québec, notamment ici au CHU de Québec, l'hôpital situé sur le boulevard Laurier, en face de Place Laurier, parce que, figure-toi donc, il y a 30%, Pascal, des nouveaux-nés qui n'ont pas de médecin de famille. Et là, avec les fameuses pastilles dans la loi 2, là, rouge, orange, jaune...
Pastilles de priorité.
Oui, bien, il y a plein d'enfants qui ne seront pas prioritaires. On ne priorisera pas non plus la prévention. On va plus prioriser donner des soins à des gens qui sont déjà en mauvaise santé. Il me semble que notre système de santé de narrache.
Bien, ça, là, c'est la réflexion que j'avais en fin de semaine. Je pense que celle qui me fait le plus peur, c'est qu'on va traiter et non traiter en prévention. Premièrement, si vous voulez y aller de façon pragmatique, ça va coûter beaucoup plus cher à l'État.
Bien oui.
Il va y avoir encore plus de colmatage à faire.
Tellement.
Parce que quand une maladie est avancée et que là, tu dois aller dans l'engrenage finalement de la santé, c'est beaucoup plus cher. Puis combien de gens on va perdre? Combien de gens on va perdre qui auraient pu être traités d'avant en prévention?
Mm-hmm.
Sans que ce soit fatal.
Exactement. Et combien d'enfants, justement, vont avoir des problèmes de développement? Je parle de développement moteur, développement du langage. Donc, combien d'enfants on va échapper comme ça dans notre système? C'est vraiment très préoccupant ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on va parler avec la docteure Marie-Claude Roy, pédiatre et présidente de l'Association des pédiatres du Québec. Madame Roy, merci beaucoup d'être disponible pour nous aujourd'hui.
C'est un grand plaisir. Bonjour.
Madame Roy, est-ce qu'on a bien expliqué la situation, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'enfants qui n'auront pas les soins de santé appropriés donnés par des pédiatres ou des médecins de famille avec la loi 2 et la fameuse réforme de pastilles de couleur?
Je pense que vous résumez bien effectivement nos préoccupations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le ministre, dans toute sa réforme, veut améliorer le réseau. On s'entend, il faut qu'il se passe quelque chose avec ce réseau-là de la santé. On est tous d'accord là-dessus. Malheureusement, quand on établit des cibles, quand on établit des priorités, ça devrait être ce qui est le plus aligné avec les besoins de la population. Mais là, ce qu'on constate dans ce projet de loi, dans cette loi 2-là, c'est que les enfants ne sont nulle part. On ne comprend pas la nature particulièrement vulnérables des enfants. On considère les enfants comme des petits adultes en santé, alors que de par leur développement, de par le caractère dynamique de leur évolution, de par le fait qu'ils sont influencés par le milieu dans lequel ils évoluent, hein, que ce soit leur maladie, que ce soit parce qu'il y a un milieu de négligence, que ce soit parce que les conditions de santé de leurs parents ne sont pas optimales. Donc, les enfants sont par définition une population vulnérable. Et ça, cette vulnérabilité-là, elle n'est absolument pas reconnue par la méthode d'évaluation du ministère. De l'aveu même du ministère, c'est une méthode qui n'est pas adéquate pour les enfants. Donc là, ce qu'on vient de dire aux médecins de famille, c'est prioriser les rouges, oranges, jaunes. Les verts, bien, si vous avez le temps, vous les verrez. Puis si on veut cocher la case que vous avez atteint vos cibles, il va falloir que vous voyez surtout les rouges et les oranges. Mais là, ce que ça nous dit, c'est que ces enfants-là ne seront plus priorisés pour le suivi et pour la prise en charge de leurs conditions physiques. Oui, vous parliez du développement, mais on a de plus en plus d'enfants qui ont des problèmes d'obésité, d'hypertension, de problèmes musculo-squelettiques, de maladies génétiques héréditaires qui sont dépistées par tous les professionnels de la santé qui les voient avant qu'ils arrivent dans notre bureau en pédiatrie.
Et ça, habituellement, quand vous aviez ce genre de suivi-là, vous pensez qu'on échappait combien d'enfants, même dans un système qui était rodé là, un peu mieux que ce qui s'en vient?
C'est dur de le chiffrer. Je pense qu'il y a eu des belles initiatives en termes de neurodéveloppement, en termes de développement avec ce que le ministre Carman, l'ancien ministre Carman, avait développé là, avec Agir tôt. Donc ça, c'est l'enjeu développemental. Il y a déjà une prise de conscience qu'il faut attraper vite ces problématiques-là. Pour chiffrer la quantité d'enfants qu'on perd, ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, nous, comme pédiatres, on a énormément de collaboration avec les omnipraticiens. Il y en a qui dédient leur pratique en entier à la périnatalité, les accouchements et le suivi des enfants. Pour nous, c'est des partenaires tellement précieux. Mais là, si on leur dit, à partir de demain, là, vous priorisez ceux qui sont déjà très malades, là, on continue à éteindre des feux, bien, c'est clair que là, actuellement, le ministre n'a pas compris que, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, tout se joue en amont, tout se joue dans la prévention et devant l'état actuel du réseau et des besoins croissants de la population, si on ne comprend pas que la prévention doit être l'enjeu numéro un, c'est qu'on fait une réforme dans le vide absolument qui va nécessairement donner des mauvais résultats. Donc, c'est pour ça qu'on crie l'alarme. Nous, ce qu'on veut, c'est au-delà du débat sur la rémunération des médecins, nous, on n'est pas là parce que les pastilles, ça ne nous concerne même pas comme pédiatre, c'est de dire, est-ce qu'on peut s'arrêter, peser sur pause, là, puis arrêter de faire une réforme à tout prix, mais faire une réforme qui a du sens et qui est alignée avec les voix des citoyens, les voix des soignants, puis alignée sur les meilleures pratiques dans le monde, parce que c'est pas le cas actuellement.
Clairement, on voit que vous vous tenez aussi, là, tous et chacun dans vos pratiques. C'est beau à voir que vous êtes capable de parler d'une seule voix. Vous dites que ça ne vous concerne pas, mais vous faites quand même partie de ces strates-là de la médecine qui ont des dommages collatéraux, qui voient leur quotidien professionnel changer aussi, puis qui sont capables d'aller peut-être anticiper la problématique que ça va créer de leur côté. Parce que oui, initialement, on parle des médecins, là, puis de cet engrenage-là, mais ça a tellement d'impacts. Ça a des impacts sur les pharmaciens, ça a des impacts sur les psychologues, ça a énormément de dommages collatéraux. Je pense que le fait de prendre la parole aujourd'hui pour essayer d'éclairer les auditeurs, c'est essentiel, là.
Oui, tout à fait. Puis nous, non seulement on veut pas voir arriver des enfants encore plus malades dans notre bureau, mais quand on regarde les cibles qui nous ont été données à nous comme pédiatres, ben on voit la liste d'attente du CRDS, l'urgence. Oui, c'est des choses à suivre, évidemment, mais nous, on le voit dans notre quotidien que les besoins des enfants sont souvent même pas sur ces listes-là. Donc, que le ministre n'en fasse pas une priorité quand on pense au suivi chronique des patients qui sont très malades, des enfants qui sont très malades, ou des listes d'attente pour les évaluations en troubles du spectre de l'autisme, ça n'apparaît pas dans les listes du ministère, puis pourtant, ces enfants-là sont en grand besoin. Donc, je pense que cette espèce de prise de conscience-là, que les soignants, vous les avez nommés, ils sont nombreux de tous horizons. Les soignants ont des choses à dire pour le ministre. Et cette réforme-là, elle mérite d'être porteuse pour le bien de tous. Parce que si on ne s'occupe pas bien de nos enfants maintenant, ça va faire des adultes encore plus malades. Puis ce qui va rester du système de santé publique, il risque de s'effondrer à ce moment-là. Puis c'est pas ce qu'on souhaite.
Justement, Mme Roy, j'ai deux observations que je veux valider avec vous. La première, c'est que je me dis, si on ne fait pas bien les suivis, là, à partir de la naissance jusqu'à l'entrée à l'école, on va nécessairement échapper des diagnostics d'enfants. Donc, ça va être encore plus difficile pour les enseignants qui en ont déjà plein les bras dans leur classe. Est-ce que je me trompe?
Tout à fait. Hein, parce que la santé, on le dit pas assez souvent, la santé, c'est pas que le ministère de la Santé. La santé, c'est tous les déterminants sociaux de la santé. C'est l'éducation, c'est les services sociaux, c'est les supports à la famille, c'est le réseau des CPE. C'est tout ça, la santé des enfants et des futurs citoyens. Donc, il faut avoir une vision beaucoup plus ouverte de la santé. Nous, on est très, très déçus de voir que face à notre cri du cœur, la voix des enfants qu'on a voulu porter, la réaction du ministre, ça a été de dire, ben dites aux pédiatres qu'ils devraient les avoir leur supplément de rémunération collective. Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Hier, dans les quatre manifestations, il n'y a pas un pédiatre qui a parlé de sa rémunération. On a crié haut et fort qu'il fallait tenir compte des enfants dans cette réforme-là. Et les réponses du ministère sont fort décevantes parce qu'on comprend qu'ils n'ont pas saisi l'urgence de bien investir pour la santé des enfants dans cette réforme-là qu'on veut efficace et qu'on souhaite tous collectivement. Donc, c'est pas vrai qu'on veut que rien change. Au contraire, on veut que les changements, tant qu'à les faire, là, tant qu'à tout le monde ensemble comme société s'embarquer dans un changement, on veut que ce soit des changements efficaces.
Mon deuxième constat, c'est, vous parliez de l'obésité des enfants tout à l'heure. On veut développer les saines habitudes de vie au Québec. On travaille fort là-dessus. On veut diminuer le temps écran. Mais si on n'est pas capable de faire les suivis avec nos enfants, d'autant plus nos enfants qui ont un problème d'obésité, on ne sera jamais capable de venir à bout de cette courbe-là. Donc, on ne sera jamais capable d'améliorer la situation de notre jeunesse.
Vous avez tout à fait raison. C'est des problématiques qu'on peut voir poindre rapidement et les spécialistes de première ligne qui sont outillés pour faire ce dépistage et cet accompagnement-là auprès des familles, ils peuvent changer la trajectoire d'un enfant puis éviter justement qu'il se ramasse dans le bureau du pédiatre beaucoup plus malade que ce qu'il aurait été autrement. Donc, c'est dès les premières années de vie qu'on doit agir de façon efficace. Les enfants ne peuvent pas être des pastilles vertes. Ils sont vulnérables. C'est tellement important de le reconnaître.
Est-ce que on a l'impression que le système de santé tel qu'on connaît actuellement réussira un jour à changer pour le mieux? Parce que bien avant cette réforme-là, il y avait des choses qui étaient complexes, il y avait certainement des choses à revoir aussi. Comment vous voyez les choses de votre côté?
J'ai l'impression qu'en voulant trop faire rapidement les choses avec une seule partie de la problématique sous les yeux, le ministre est en train de faire une gaffe. Je pense qu'on a besoin d'états généraux, on a besoin d'une très vaste consultation populaire pour dire on en est où dans notre système de santé, où sont les besoins de la population, puis qu'est-ce qu'on est encore capable d'offrir. Parce que des services, la technologie, les moyens, on peut toujours faire plus, mais on a une population qui est de plus en plus malade, qui vit de plus en plus longtemps aussi avec des problématiques qu'on soigne mieux qu'avant, mais tout ça génère énormément de besoins. Puis là, il faut qu'on fasse un constat et qu'on dise qu'est-ce qu'on est capable de s'offrir comme société, qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable encore d'avoir ce système de santé-là public qui a tellement fait notre fierté, mais qu'est-ce qu'on fait comme choix aussi globalement? Parce que la courbe, c'est mathématique. Hein? Si les besoins explosent puis les ressources augmentent pas, ben il y aura toujours un surplus de besoins par rapport aux services qu'on peut offrir dans le réseau de la santé. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion collective qui va bien au-delà d'une loi qui porte sur la rémunération des médecins. Là, je pense que c'est à courte vue, on règle absolument rien. Il faut qu'on se pose certaines questions que le ministre a mis sur la table, mais il faut que ce soit dans une réflexion beaucoup plus globale. Puis il faut que les voix citoyennes soient entendues, pas juste les voix des médecins ou les voix du ministre. Hein. Je pense que ça nous concerne tous comme citoyens, ce réseau de la santé-là.
Je termine l'entrevue avec cette question-ci, Mme Roy. Vous avez parlé tout à l'heure de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Ça serait quoi la bonne pratique à implanter au Québec pour s'assurer qu'on prend soin de nos enfants, qu'on travaille en prévention et qu'on va arrêter d'investir des milliards de dollars dans des soins de santé chez nos adultes plus tard?
Bien, je pense que ce qui ressort là, dans les bonnes pratiques un peu partout, c'est d'abord la collaboration interdisciplinaire. Donc, entre les différents professionnels, c'est sûr qu'il faut arrêter de centrer ça autour du médical seulement. Je pense que les soins de santé sont étalés sur plusieurs professionnels qui ont chacun leur expertise. Je pense aussi que au-delà des cibles, le ministre dit que les cibles ailleurs dans le monde, ça a fait ses preuves. Ce sont pas des cibles mathématiques ou comptables. Ce sont des cibles qualitatives, des cibles orientées sur la santé populationnelle et sur l'impact sur cette santé-là populationnelle. Donc, je pense que c'est une multitude d'exemples. On ne peut pas prendre juste une partie de ce qui fait bien, de ce qui se fait bien dans le monde. Il faut vraiment avoir une vision beaucoup plus large.
Marie-Claude Roy est pédiatre et présidente de l'Association des pédiatres du Québec. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission On en jase ce midi. Au plaisir de se reparler. C'était vraiment une conversation intéressante.
Un grand plaisir. Au revoir.
Merci. Au revoir. C'était Marie-Claude Roy, les pédiatres qui ont sonné l'alarme hier. Pascal, je pense